il s'était redressé, pâle et énergique. « Nous quitter fâchés ? Ah non, non, ce serait l'éternel remords, la plaie inguérissable. Si elle doit partir un jour, je veux que nous puissions nous aimer de loin. Mais pourquoi partir ? Nous ne nous plaignons ni l'un ni l'autre. » Félicité sentit qu'elle s'était trop hâtée. « Sans doute, si cela vous plaît de vous battre, personne n'a rien à y voir. Seulement, mon pauvre ami, permets-moi, dans ce cas, de te dire que je donne un peu raison à Clotilde. Tu me forces à t'avouer que je l'ai vue tout à l'heure. Oui, ça vaut mieux que tu le saches, malgré ma promesse de silence. Eh bien, elle n'est pas heureuse. Elle se plaint beaucoup. Et tu t'imagines que je l'ai grondée, que je lui ai prêché une entière soumission. Ça ne m'empêche pas de ne guère te comprendre et de juger que tu fais tout pour ne pas être heureux. » Elle s'était assise, l'avait obligée à s'asseoir dans un coin de la salle où elle semblait ravie de le tenir seul à sa merci. Déjà à plusieurs fois, elle avait de la sorte voulu le forcer à une explication qu'il évitait, bien qu'elle le torturât depuis des années et qu'il n'ignorât rien d'elle. Il restait un fils déférent. Il s'était juré de ne jamais sortir de cette attitude obstinée de respect. Aussi, dès qu'elle abordait certains sujets, se réfugiait-il dans un absolu silence. « Voyons, continua-t-elle, je comprends que tu ne veuilles pas céder à Clotilde, mais à moi, si je te suppliais de me faire le sacrifice de ces abominables dossiers qui sont là dans l'armoire. Admets un instant que tu meurs subitement et que ces papiers tombent entre des mains étrangères. Nous sommes tous déshonorés. Ce n'est pas cela que tu désires, n'est-ce pas? Alors, quel est ton but? Pourquoi t'obstines-tu à un jeu si dangereux? Promets-moi de les brûler. » Il se taisait. Il dut finir par répondre. « Ma mère, je vous en ai déjà prié, ne causons jamais de cela. Je ne puis vous satisfaire. » « Mais enfin, cria-t-elle, donne-moi une raison. On dirait que notre famille t'est aussi indifférente que le troupeau de bœufs qui passe là-bas. Tu en es pourtant. Oh, je sais, tu fais tout pour ne pas en être. Moi-même, parfois, je m'étonne, je me demande d'où tu peux bien sortir. Et je trouve quand même très vilain de ta part de t'exposer ainsi à nous salir, sans être arrêté par la pensée du chagrin que tu me causes, à moi, ta mère. C'est simplement une mauvaise action. » Il se révolta, il céda, un moment, au besoin de se défendre, malgré sa volonté de silence. « Vous êtes dur, vous avez tort. J'ai toujours cru à la nécessité, à l'efficacité absolue de la vérité. C'est vrai, je dis tout sur les autres et sur moi. Et c'est parce que je crois fermement qu'en disant tout, je fais l'unique bien possible. D'abord, ces dossiers ne sont pas destinés au public. Ils ne constituent que des notes personnelles, dont il me serait douloureux de me séparer. Ensuite, j'entends bien que ce ne sont pas eux seulement que vous brûleriez. Tous mes autres travaux seraient aussi jetés au feu, n'est-ce pas? Et c'est ce que je ne veux pas, entendez-vous? Jamais, moi vivant, on ne détruira ici une ligne d'écriture. » Mais, déjà, il regrettait d'avoir tant parlé, car il la voyait se rapprocher de lui, le presser, l'amener à la cruelle explication. « Alors, va jusqu'au bout, dis-moi ce que tu nous reproches. Oui, à moi, par exemple, que me reproches-tu? Ce n'est pas de vous avoir élevé avec tant de peine. Ah, la fortune a été longue à conquérir. Si nous jouissons d'un peu de bonheur aujourd'hui, nous l'avons rudement gagné. Puisque tu as tout vu et que tu mets tout dans tes paperasses, tu pourras témoigner que la famille a rendu aux autres plus de services qu'elle n'en a reçus. À deux reprises, sans nous, Plassans était dans de beaux draps. Et c'est bien naturel, si nous n'avons récolté que des ingrats et des envieux, à ce point qu'aujourd'hui encore la ville entière serait ravie d'un scandale qui nous éclabousserait. Tu ne peux pas vouloir cela, et je suis sûre que tu rends justice à la dignité de mon attitude. depuis la chute de l'Empire et les malheurs dont la France ne se relèvera sans doute jamais. Laissez donc la France tranquille, ma mère, dit-il de nouveau, tellement elle le touchait aux endroits qu'elle savait sensibles. La France a la vie dure, et je trouve qu'elle est en train d'étonner le monde par la rapidité de sa convalescence. Certes, il y a bien des éléments pourris, je ne les ai pas cachés, je les ai trop étalés peut-être. Mais vous ne m'entendez guère, si vous vous imaginez que je croise à l'effondrement final, parce que je montre les plaies, les lézardes. Je croise à la vie, qui élimine sans cesse les corps nuisibles, qui refait de la chair pour boucher les blessures, qui marche quand même à la santé, au renouvellement continu parmi les impuretés et la mort. Il s'exaltait. Il en eut conscience, fit un geste de colère et ne parla plus. Sa mère avait pris le parti de pleurer. De petites larmes courtes, difficiles, qui séchaient tout de suite. Et elle revenait sur les craintes dont s'attristait sa vieillesse. Elle le suppliait, elle aussi, de faire sa paix avec Dieu, au moins par égard pour la famille. Ne donnait-elle pas l'exemple du courage? Plaçant entier le quartier Saint-Marc, le vieux quartier et la ville neuve, ne rendait-il pas hommage à sa fière résignation? Elle réclamait seulement d'être aidée. Elle exigeait de tous ses enfants un effort pareil au sien. Ainsi, elle citait l'exemple de Gênes, le grand homme, tombé de si haut, et qui voulait bien être plus qu'un simple député, défendant jusqu'à son dernier souffle le régime disparu dont il avait tenu sa gloire. Elle était également pleine d'éloges pour Aristide, qui ne désespérait jamais, qui reconquérait, sous le régime nouveau, toute une belle position, malgré l'injuste catastrophe qu'il avait un moment ensevelie parmi les décombres de l'Union universelle. Et lui, Pascal, resterait seul à l'écart, ne ferait rien pour qu'elle mourût en paix, dans la joie du triomphe final des Rougon? Lui qui était si intelligent, si tendre, si bon! Voyons, c'était impossible. Il irait à la messe le prochain dimanche, et il brûlerait ses vilains papiers, dont la seule pensée la rendait malade. Elle suppliait, commandait, menaçait. Mais lui ne répondait plus, calmé, invincible dans son attitude de grande déférence. Il ne voulait pas de discussion. Il la connaissait trop pour espérer la convaincre et pour oser